Bien, bonjour. Cher public nombreux qui êtes là ce dimanche midi. Donc on va essayer en petit comité de vous parler de ce livre Bordeaux et ses banlieues, la construction d'une agglomération qui est sorti il y a quelques mois maintenant. Et il nous a semblé intéressant que dans le cadre de la Biennale Agora, nous puissions en discuter. Alors pour ce faire, nous serons plusieurs. Annie Fourcault, qui est professeure d'histoire contemporaine à Paris 1 et qui est spécialiste des relations entre Paris et ses banlieues et l'agglomération parisienne. Sylvain Chambard, qui est historien, architecte, très fin connaisseur notamment du Bordeaux du 19e siècle, qui travaille et suit de près tout le périmètre UNESCO en particulier aujourd'hui. Moi-même, donc Olivier Ratouy, historien, urbaniste. Et puis quelques auteurs d'ailleurs qui sont là ou proches et qui viendront et qui pourront bien sûr prendre la parole. Donc on a imaginé parler à peu près 10 minutes chacun, puis ensuite pour pouvoir garder un temps de questions et de discussions, surtout dans cette configuration, je pense que c'est tout à fait souhaitable. Alors pour autant, cet ouvrage donc, dont vous voyez la couverture et qui derrière moi et que nous faisons passer parmi vous est un ouvrage donc, qui rassemble différents auteurs qui sont des spécialistes de l'espace bordelais, de l'aménagement bordelais, historiens, géographes, sociologues, architectes, urbanistes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cet objet est un objet complexe qui connaît et qui est appréhendable par des approches multiples. Voilà. Alors, la ville change vite. Vous êtes ici beaucoup déjà des connaisseurs de cette question, donc on ne va pas vous l'apprendre. Elle change vite. On en a autour de nous et ici même des exemples à l'esprit. Ce hangar lui-même, il y a encore une vingtaine d'années, était dans son pourtour un espace portuaire qui connaissait du commerce. Et ces quais ont été réaménagés. Le pont Chaban-Delmas, qui a été ouvert il y a quelques mois, est également présent. Les changements urbains, eh bien, ce sont aussi les relations entre les communes de la banlieue. Et on peut citer par exemple le réaménagement du campus sur les communes de Talence, Pessac et Gradignan. Le tramway, enfin bref, je ne vais pas évoquer tout ça, mais ce tramway qui parcourt différentes communes, les Hautes-Garonne, etc. Et une évidence, c'est que ces limites communales, eh bien, elles ne sont plus du tout vécues par les centaines de milliers d'habitants aujourd'hui, comme elles pouvaient l'être il y a encore quelques décennies. Ce qui ne veut pas dire que tout esprit de clocher a disparu, mais pour autant, les limites ne sont non plus la même marque, non plus la même puissance. Voilà. Donc, comprendre la ville, c'est à un moment s'intéresser à son histoire, aux temporalités. Et l'envisager aussi, non pas comme une simple addition d'événements comme ceux que je viens de citer, hein, mais tous ces événements, ils fabriquent quelque chose, ils produisent quelque chose, ils construisent une entité, la transforment. Et c'est sous cet angle que nous avons collectivement décidé de travailler, à savoir donc en interrogeant l'agglomération. Alors, agglomération, c'est un terme qui est un peu technique, mais qui, quand même, s'est largement répandu dans le vocabulaire commun, donc qui est banalisé. On peut quand même dire que lorsqu'on s'y arrête, il renvoie à différentes choses. Il y a une dimension démographique, c'est-à-dire qu'on parle de l'agglomération des populations, et c'est le cas notamment au XIXe siècle, à partir du XIXe siècle. Et puis, au tournant des 19e et 20e siècles, lorsqu'on parle d'agglomération, ça prend une dimension spatiale, hein, Et ça accompagne en fait l'aménagement des banlieues, l'extension des banlieues. Donc qu'est-ce que c'est que l'agglomération? Ben, c'est la ville centre plus ses banlieues, voilà. Et puis aujourd'hui, récemment, depuis quelques décennies à peine, eh bien, l'agglomération prend un sens, on pourrait dire, politique. Et on pense là à la communauté urbaine de Bordeaux en particulier. Voilà, donc un terme qui en fait a plusieurs significations. On reviendra sur cet enjeu des mots, je crois que c'est assez important. On parle beaucoup de métropole, on parle du Grand Bordeaux, et puis à Paris, Annie Fourcault nous le dira, ces conflits de dénomination ne sont pas sans importance non plus. S'intéresser à agglomération, c'est s'intéresser aux limites, aux seuils, où est-ce que ça finit, hein, où est-ce que ça se clôt, quand est-ce que ça s'arrête, et comment est-ce qu'on fait pour définir justement ces limites et à partir de quel type de considération. Voilà, donc à cet égard, un élément historique très important, un élément de constitution, c'est les fortifications, hein, c'est, qui marquent cette rupture, et précisément à Bordeaux, eh bien, les fortifications se sont peu à peu estompées. Je crois que Sylvain pourra peut-être revenir là-dessus. C'est petit à petit que ça s'estompe et que cette rupture eh bien, tombe non seulement physiquement, mais aussi dans les mentalités, dans les représentations. Alors, l'ouvrage, puisque c'est ce dont nous partons, c'est un livre qui a donc décidé de prendre la forme d'une centaine, d'un peu plus d'une centaine d'événements identifiés par les auteurs comme les éléments fondateurs de la construction de l'agglomération. Donc on a l'idée que l'agglomération n'est pas quelque chose qui existe en soi, si vous voulez, mais qui se fabrique au fur et à mesure. Au fur et à mesure, c'est-à-dire au gré de différentes périodes qui marquent des accélérations, des ralentissements, des transformations. Et sans entrer dans le détail, ça serait évidemment trop long, mais nous avons identifié cette période depuis le XVIIIe siècle où l'on voit la ville au XVIIIe siècle doublée de population et puis adopter progressivement le modèle d'une ville ouverte, c'est-à-dire d'une ville qui n'est plus fermée par ses enceintes. Par la suite, eh bien, les relations avec les banlieues prennent de l'ampleur au XIXe siècle, jusqu'on peut dire jusqu'à la Première Guerre mondiale, en même temps que celles-ci affirment leur indépendance. Donc c'est un double mouvement en réalité qui a lieu. Ensuite, on a eu à Bordeaux une phase très, très, très dynamique avec le maire Marquet, qui a modernisé le maire de Bordeaux, Adrien Marquet, qui a modernisé la ville par de nombreux chantiers. Un autre grand maire après la Seconde Guerre mondiale, Jacques Chaban-Delmas, évidemment, près de 50 années de fonction majorale, c'est tout à fait considérable. Et un moment essentiel dans notre histoire, la constitution de la communauté urbaine de Bordeaux, 1967, qui est liée à une loi qui a donné donc à un petit nombre de villes en France en fait, ce statut. Mais c'est loin d'avoir été le cas partout, et notamment pas à Paris, comme nous pourrons en parler tout à l'heure. Alors, bien, cette périodisation, si l'on veut, elle montre aussi l'évolution de ce qu'est la banlieue. La banlieue se transforme. Tantôt, elle est support de développement, par exemple lorsqu'elle se constitue en zone d'extension, en lieu de loisirs. On a beaucoup pratiqué et depuis longtemps à Bordeaux ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la double résidence. Hein. Et puis en espace de richesse aussi, avec le vin, avec la vigne. Mais elle est tantôt aussi frein à cette construction, frein à ce développement lorsque, par exemple, surgissent des conflits politiques entre les communes ou bien lorsque les contraintes, la géographie, les contraintes géographiques eh bien, gênent ce développement. Voilà. Alors, ce que l'on peut me dire, le point sur lequel je voulais insister pour ouvrir cette séance et ce débat, c'était sur cette dimension sur cette multidimensionnalité plutôt de l'agglomération. C'est-à-dire, l'agglomération, c'est quelque chose qui se fabrique à partir de toute une série d'éléments, à la fois d'ordre démographique, de population, physique, on a évoqué les fortifications par exemple, culturelles aussi, économiques. Qui au gré des décennies a un sens qui se transforme. Je veux dire par là que lorsque les Bordelais au XIXe siècle parlent de l'agglomération de Bordeaux, ils parlent en fait de quelque chose qui est tout à fait différent de nous lorsque nous le faisons aujourd'hui. Voilà. Alors, simplement un mot, je ne vais pas être trop long pour laisser parler les autres intervenants. Mais je voudrais quand même à cet égard donner un petit élément de cadrage. Dans les années 1950, dans l'après-guerre, l'INSEE, l'Institut National de la Statistique, s'est mis à parler d'agglomération bordelaise et ça comprend alors 9 communes. Bordeaux, Bègles, Le Bouscat, Sénon, Floirac, Lormont, Mérignac, Pessac, Talence. Et puis, très rapidement, une dizaine d'années après, l'agglomération, donc qui s'appelle toujours pour l'INSEE agglomération, est étendue à 14 communes. Puis, en 1968, donc 6 ans après, à 27 communes. Voilà. Et si donc une étonnante diversité en fait de périmètres qu'on peut relever également dans les outils en charge de cette agglomération. Le syndicat intercommunal, il y a un syndicat intercommunal qui a été créé en 1932 pour produire un plan régional de Bordeaux qui groupait 12 communes. Bassin, Bègles, Bordeaux, Le Bouscat, Bruges, Codéran, Sénon, Floirac, Lormont, Mérignac, Pessac, Talence. Et puis en 1962, pour ce même plan d'urbanisme, enfin son successeur, ce sont 22 communes, vous voyez. Et puis avec la communauté urbaine en 1967, ce chiffre est à nouveau étendu. Et avec le schéma directeur, c'est encore plus important. Voilà. Alors, une dernière chose, la métropole. L'agglomération de Bordeaux représente, par rapport à la population de l'Aquitaine, en 1811, 3% de cette population. Et en 1968, 14%. Donc on voit comment, en fait, cette agglomération se constitue en métropole, c'est-à-dire en ville-mère, pour reprendre l'étymologie régionale. Et puis, depuis quelques années, alors que la population de Bordeaux, de la ville de Bordeaux, a stagné, pendant, disons, même l'essentiel du XXe siècle, depuis quelques années, la population bordelaise connaît une nouvelle croissance. Donc nous sommes aujourd'hui dans un processus de croissance de la métropole qui implique l'ensemble de ces communes. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais laisser tout de suite la parole à Annie Fourcault pour nous parler de Paris et peut-être faire écho avec le cas bordelais.
Oui, merci. D'abord, je vais remercier les Bordelais de m'avoir invité. C'est pas totalement évident. Ma présence ici n'est pas totalement évidente. Donc, merci à Olivier Ratouis et à Sylvain Schoenberg et aux organisateurs de l'Agora d'avoir fait venir une spécialiste de Paris pour parler de Paris et Bordeaux. Pas Paris-Bordeaux, mais Paris et Bordeaux. Alors, il se trouve que j'ai fait un peu la même chose que le livre dont il est question aujourd'hui. J'ai dirigé, il y a une dizaine d'années, un livre qui s'appelait « Paris/banlieue, conflit et solidarité » et qui était une demande de la mairie de Paris. Au début de la première mandature de Bertrand Delanoë, ils ont commencé à repenser la question du Grand Paris, qui était une question qui avait complètement disparu des débats. Et pour ce faire, ils ont eu une idée plutôt positive, qui était de faire appel à des historiens, c'est-à-dire de demander à des historiens est-ce que le Grand Paris a déjà existé avant de se lancer dans la construction d'un nouveau Grand Paris. On voulait questionner l'histoire pour savoir s'il y avait eu des précédents dans l'histoire. Et avec une équipe d'historiens, on a fait un travail un peu voisin de celui-là. Et on s'est posé la question, comment écrire l'histoire des relations Paris et banlieue sur 2 siècles, depuis la fin de l'Ancien Régime jusqu'à la fin du XXe siècle. Première réflexion, c'est une tâche impossible. C'est impossible. Il faudrait 10 tomes, et encore, on en oublierait. Et en plus, c'est une histoire, comme le disait Olivier, en train de se construire tout le temps. En train de se construire par tout un tas d'événements. Et donc, et puis à plusieurs échelles, donc c'est infaisable. On a pris le parti de donner à lire les documents renvoyant aux événements qui ont construit l'agglomération parisienne. C'est-à-dire, c'est un livre qui publie des textes de façon un peu érudite, de façon à donner au lecteur les moyens de s'approprier les textes et de se faire leur propre itinéraire dans l'histoire de la construction de l'agglomération parisienne. Grosso modo, on part de la constituante, c'est-à-dire la construction des départements, et plus exactement la construction du département de la Seine, avec Paris au milieu, puis un département circulaire autour, puis un autre département circulaire autour qui s'appelle la Seine-et-Oise, et on allait jusqu'à la fin du XXe siècle, début XXIe siècle, quand, à la demande de Bertrand Delanoë, un de ses adjoints chargé justement, alors pas du Grand Paris, parce que le terme fait peur à tout le monde, donc il avait un titre du genre chargé des relations avec les collectivités territoriales de l'Île-de-France. Bon, il s'appelait Pierre Mansart, et il avait fondé un syndicat qui s'appelait Paris Métropole. Donc on a publié tous les textes, les documents historiques qui permettaient au lecteur de comprendre cette histoire en train de se faire. Et je suis ravie de voir que ce, entre guillemets, modèle qui a l'avantage de ne pas vieillir, parce que les textes seront toujours valables. Les textes d'Haussmann, les textes des préfets, les documents historiques ne seront pas caducs dans 10 ans, dans 20 ans. Alors qu'une histoire faite par un historien ou un groupe d'historiens serait caduque. Donc, c'est pour ça que je suis là, pour une espèce, non pas de comparaison entre Paris et Bordeaux, qui serait quelque chose d'extrêmement aventuré, mais en même temps pour rappeler des ressemblances, des similitudes et des différences dans la construction des agglomérations et dans la construction des métropoles. Mais avant de revenir sur cette comparaison, peut-être Sylvain veut-il ajouter des choses sur les aspects bordelais.
Merci beaucoup Annie. Moi je voudrais d'abord remercier Annie d'être venue ici à la demande d'Agora, puisque je travaille à la ville de Bordeaux, et puis bien sûr Olivier, avec qui j'ai eu un très grand plaisir à travailler pour cet ouvrage qui est sorti maintenant il y a presque un an à peu près. Hein. C'était à la rentrée l'année dernière. Ce que je pense effectivement très important de souligner, c'est le fait que cet ouvrage soit une anthologie, c'est-à-dire que c'est un recueil de textes, c'est un recueil de sources. Avec le parti qui a été pris, c'est celui d'avoir des petites notices des auteurs qui présentent les textes, mais finalement l'historien se met un petit peu en retrait de la source. Et c'est la source qui parle, et c'est au lecteur de se faire sa propre interprétation. Et en cela, l'ouvrage qu'avait dirigé Anne Fourcault sur Paris, effectivement, je crois que tu pourras le repréciser, Olivier, mais était un peu un modèle, ou en tout cas une référence, pour travailler sur Bordeaux. Alors, ce qu'on n'a peut-être pas dit aussi, c'est qu'il y a 25 auteurs, je crois. Hein. Il y a 25 auteurs, donc il y a 25 personnes d'horizons très différents, des historiens, des géographes, des économistes, des urbanistes, des architectes, etc., qui ont travaillé pour compiler cet ouvrage sur la même temporalité, Annie, que tu évoquais, c'est-à-dire de la fin de l'Ancien Régime à Agora, d'ailleurs. Il y a même une notice qui est consacrée à Agora dans l'ouvrage, donc à des questions très, très contemporaines. Et puis, si on avait sorti l'ouvrage dans un an ou dans 2 ans, il y aurait certainement eu une notice sur la métropole qui est dans les tuyaux, là, hein, qui va sortir à partir de l'année prochaine. Alors Olivier a évoqué par exemple les fortifications, cette idée que pour passer de la ville, de l'ancien régime, de la ville dans sa forme classique, hein, une ville dans sa définition classique, c'est une enceinte et des privilèges. Hein, moi j'aurais tendance à rajouter c'est aussi l'espace public, mais c'est des enceintes et des privilèges. Alors comment est-ce qu'on passe de cette ville classique à cette notion d'agglomération contemporaine ou de métropole? Peut-être on pourra en discuter, mais un des aspects importants c'est la ville contemporaine, c'est celle qui commence à sortir de ses murailles, voire celle qui détruit ses murailles. Alors, on connaît bien dans beaucoup de villes des discours et des sources qui nous disent « à bas les fortifications, à bas les murailles, etc. » Bordeaux, ça n'existe pas. C'est un peu une singularité bordelaise. On ne trouvera jamais... Je ne veux pas être si affirmatif, mais en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas de texte qui évoque un désir particulier de la population bordelaise pour détruire les murailles de la ville. Alors, comment l'expliquer, comment l'interpréter? Moi, il me semble qu'il y a plusieurs possibilités. Les Bordeaux est une ville qui est une ville de commerce. C'est pas une ville militaire, en tout cas pas à la fin de l'Ancien Régime. Les murailles n'ont plus de sens guerrier, n'ont plus de sens militaire. L'esprit de la ville à la fin de l'Ancien Régime, c'est de faire prospérer son commerce. C'est donc un des grands soucis de l'intendant Tourny, que vous connaissez tous, c'était de démolir le château Trompette, qui était cette forteresse que là, pour le coup, alors Charles VII et puis ensuite Louis XIV et Vauban avaient agrandi, non pas pour défendre Bordeaux, mais pour mater les Bordelais qui étaient frondeurs, qui avaient tendance à ne pas respecter l'autorité royale. Hein. Bordeaux, quand elle n'avait pas de pont, était un peu à l'écart du royaume de France en Guyenne, capitale de la Guyenne. Donc déjà, là encore, non pas une agglomération, mais une notion de Bordeaux capitale. Donc ces fortifications, moi, il me semble qu'elles, très vite, à la fin de l'Ancien Régime, elles n'avaient déjà plus d'utilité, au moins dans les esprits, et même fonctionnellement. Hein, le château Trompette n'avait plus de fonction défensive à la veille de la Révolution. Les deux autres forts, le fort Louis et le fort du Ha, qui protégeaient la ville au sud et à l'ouest, avaient également perdu leur fonction militaire. Et puis, la croissance de la ville, notamment à partir du milieu du XVIIIe siècle, a fait que la ville avait déjà poussé hors de ses murailles. Et en quelque sorte, plutôt qu'abattre les fortifications, bien Bordeaux, on a l'impression qu'elle les a digérées, qu'elle les a démolies, en construisant peu à peu ses fossés, ses douves, en abattant peu à peu des morceaux des remparts, et bien sûr en détruisant in fine la grosse forteresse du château Trompette sous la Restauration, en créant le lotissement et l'esplanade des Quinconces que vous connaissez tous. Donc c'est peut-être un peu une singularité bordelaise que cette idée que la ville s'est étendue dans ses banlieues à digérer ces fortifications de façon assez pacifique. Et c'est peut-être ce qui marque la croissance de l'agglomération bordelaise, avec un autre trait, une autre singularité, comme le soulignait Olivier. Peut-être on pourra faire la comparaison avec Paris. C'est cet amour des Bordelais pour la campagne qui génère un phénomène de double résidence, c'est-à-dire depuis très longtemps l'habitude de passer une partie de l'année à vivre dans son bourdieu, hein, disait-on. Un bourdieu, c'est à la fois une maison de campagne qui peut parfois être aussi un domaine viticole, mais c'est surtout l'idée que la campagne, la maison de plaisance, est un lieu de repos pour l'âme. Hein. Donc au XVIe siècle, on appelait ça l'osium, qui est d'ailleurs le mot à l'origine du mot loisir. Le loisir à Bordeaux consistait à se retirer à la campagne une partie de l'année, plusieurs mois même, ce qu'on soit riche ou moins riche. Et le phénomène d'extension des maisons dans la périphérie Bordeaux, qui est très important, donc au-delà des cours, donc au-delà des remparts, et même au-delà des boulevards, qui sont cette nouvelle ceinture de voirie qui permet de redéfinir le territoire communal de Bordeaux à partir de 1865, et d'agrandir d'ailleurs même ce territoire, puisqu'une partie des communes limitrophes, à l'image de Paris en 1860, est annexée pour redéfinir le territoire communal, pour lui donner une nouvelle identité, une nouvelle forme d'abord, plus lisible sur une carte, une nouvelle identité politique et économique bien sûr, puisque c'est l'octroi qui délimite ce nouveau territoire en rive gauche, en tout cas sur les boulevards, avec l'annexion de la plaine de la rive droite, la Bastide, et qui donc amorce cette espèce de ville, on parle aujourd'hui de la ville du croissant de lune à la pleine lune, et bien la rive droite s'intègre à la rive gauche, qui est historiquement depuis 2000 ans sur ce côté-là. La rive droite devient une partie de l'agglomération. Et pour revenir à mon propos, la notion de périphérie est très liée à la notion de maison individuelle et d'habitat individuel avec un petit jardin, etc. Ce qui reprend cette sorte de tradition de la relation entre travailler en ville et habiter en périphérie. À tel point que vous le savez tous, et après les années 1850 et 60, c'est la grande période d'extension, la première grande période véritablement d'extension et d'étalement urbain tel que peut le générer la croissance industrielle de Bordeaux au 19e siècle. Et chacun sa petite échoppe, sa petite maison. Le moindre ouvrier de chemin de fer peut se faire construire, celui qui gagne 3 francs par jour, une maison en périphérie, entre guillemets, mais en réalité, il est très, très proche de la ville. Alors peut-être c'est ça aussi une singularité bordelaise, c'est cette ville composée de maisons qui, même quand on travaille en ville, rappelle toujours un peu la campagne. Je veux pas être trop long, mais Annie, est-ce que tu veux réagir?
Et alors, cette histoire de fortification, ça montre, alors Sylvain a exposé la singularité bordelaise, alors la singularité parisienne est exactement inverse, parce qu'au milieu du 19e siècle, à partir du milieu du 19e siècle, toutes les grandes villes européennes, allemandes, etc., détruisent leurs fortifications, parce qu'elles deviennent des villes d'industrie, elles ne sont plus des places fortes militaires. Or, à Paris, pour des raisons historiques et diplomatiques un peu compliquées, on construit des fortifications entre 1841 et 1845, sous la monarchie de Juillet, parce qu'on craignait le retour des Prussiens, enfin bon, peu importe les causes profondes. Donc on enserre Paris dans ce qu'on appelle les fortifications ou les fortifs, c'est-à-dire une énorme enceinte militaire avec des portes, des douves, un glacis militaire autour. Et donc Paris se retrouve enfermé dans une muraille qui ne sera à raser qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale. Parce qu'on s'est rendu compte pendant la Première Guerre mondiale que ça ne servait militairement à rien. Jusque-là, les militaires ne voulaient pas lâcher les fortifications. Or, ce cercle de murailles enserrant Paris, qui a entraîné des tas de débats, même s'il a été arasé au début du XXe siècle, est resté dans la tête des Parisiens, est resté symboliquement dans la tête des Parisiens. D'abord, aujourd'hui, c'est le lieu où a été construit le périphérique, qui enserre Paris par un anneau, une rocade de circulation. Donc, un événement un peu étrange, un peu à contre-courant de l'évolution classique des villes occidentales, peut générer pendant tout le XXe siècle, une représentation de la ville fermée sur elle-même. Et même si les portes ont disparu, Paris a toujours... Les stations de métro s'appellent portes. Portes de Pantin, portes de... Et dans la tête des Parisiens, pendant très longtemps, Paris s'est été fermé sur lui-même même après la disparition des murailles. Et donc ça montre que quand on réfléchit à la construction d'une agglomération ou d'une métropole, il faut parfois revenir sur des événements antérieurs, même si les traces physiques ont disparu, parce que la disparition des traces physiques ne veut pas dire que la charge symbolique des bâtiments a disparu elle aussi. Et cette histoire de limite de Paris joue encore aujourd'hui dans les problèmes énormes de construction de la métropole. Parce que les fortifications de 1841-45 ont fixé, alors définitivement, l'historien ne dit jamais définitivement, les limites de Paris qu'on appelle encore intramuros, à l'intérieur de ses murailles. Paris-Ville, c'est à l'intérieur des fortifications ou aujourd'hui à l'intérieur du périphérique. D'où l'importance de cette approche historique un peu modeste qui donne à voir les événements successifs dans ces constructions complexes qui sont à la fois des constructions urbaines, l'extension des banlieues, et plus compliqué peut-être, on y reviendra peut-être, des constructions politiques.
Alors on peut peut-être ici pour Bordeaux évoquer la coupure très forte entre la rive gauche et la rive droite et le fait que la relation physique qui vient d'être renouvelée avec ce nouveau pont ne coupe pas pour autant ce que tu évoques à l'égard de Paris, hein, c'est-à-dire cette distance aussi en termes de représentation et d'imaginaire urbain. Voilà. Alors peut-être un petit mot, puis ensuite je laisserai la parole à ceux qui souhaitent intervenir ou poser des questions. Un petit mot sur les relations quand même entre les communes. Il me semble que on pourrait évoquer les annexions. On a fait une carte, par exemple, dans l'ouvrage, vous l'avez peut-être vu, sur l'évolution du territoire communal bordelais. Et donc les annexions, les deux grandes annexions qui ont eu lieu à 100 ans d'écart, hein, 1865 et puis exactement 100 ans après. Ce qu'on voit, pour Paris, il n'y a pas de communauté urbaine, hein, il y avait aussi un refus politique de voir Paris devenir le Grand Paris et devenir un contre-pouvoir. Enfin, je ne sais pas si tu dirais ça comme ça, mais je pense que c'est quand même très présent. Bordeaux, par contre, en 1967, se constitue en communauté urbaine, pas forcément d'ailleurs très volontairement. Mais il me semble qu'on a dans l'histoire un temps pour les annexions, pour les extensions urbaines, et je me souviens de Lanoé expliquant que c'était terminé, ça. Alors, est-ce que c'est terminé aussi pour Bordeaux? Bon, je ne sais pas, il faudrait voir. Mais il me semble quand même que oui, c'est-à-dire qu'on passe à un autre type de relation. Les relations entre communes qui donnent lieu à annexion, la dernière a eu lieu, donc ça fait maintenant un peu plus de 50 ans. Et je pense qu'effectivement, raisonnablement, ça devrait être la dernière, parce qu'on passe à une étape supérieure, à cette agglomération qui est en passe de devenir métropole, et là on ne peut pas évidemment totalement présager de sa nature. Voilà. Est-ce que tu veux dire un petit mot là-dessus concernant Paris?
Alors sur le problème des annexions, là je crois qu'il faut évoquer un personnage dont on n'a pas parlé, c'est Haussmann. C'est qu'Haussmann est préfet de la Gironde au tout début du Second Empire. D'ailleurs, il prépare avec Alphand, son ingénieur qui l'emmènera à Paris, il prépare un plan d'annexion de Bordeaux, qui d'ailleurs aurait été plus vaste que ce qui a été effectivement réalisé. Et ensuite, l'empereur Napoléon III l'appelle à Paris, et là, comme préfet de la Seine, il va, vous le savez, complètement révolutionner, moderniser, haussmanniser la capitale, en traçant des grandes percées dans le tissu ancien de la ville ancienne médiévale, et il va réaliser l'annexion des communes dites suburbaines, c'est-à-dire donner à Paris sa taille quasi définitive. Il y aura quelques petites annexions de bouts de territoire en 1925, plus le bois de Vincennes et le bois de Boulogne, mais la forme, les frontières administratives du Paris d'aujourd'hui ont été données par Haussmann et son équipe lors de l'annexion de 1859-1860, à l'intérieur des fortifications. Et cette annexion s'est faite. On a consulté. Alors, il ne faut pas exagérer, le Second Empire, une tyrannie abominable, etc. Ce n'est pas vrai. On a consulté les conseils municipaux, qui étaient d'ailleurs à peu près tous d'accord, sauf deux, la Villette et puis au sud. C'était un régime qui consultait les populations et qui ensuite décidait de façon un peu ferme ce qu'il fallait faire. Et c'est cette opération qui a donné à Paris le Paris des 20 arrondissements. Il est né en 1860. Alors aujourd'hui, évidemment, l'idée même d'une annexion fait hurler et tous les maires de toutes les communes de banlieue, surtout des communes limitrophes. Et le terme d'annexion est devenu un mot absolument tabou. Il n'est pas question de parler d'annexion. D'ailleurs, il n'est pas question de réaliser la moindre annexion des communes limitrophes autour de Paris. C'est politiquement impossible. Et je pense que ça s'explique aussi en partie parce que le fonctionnement de l'État a changé. Je veux dire, on est dans un État décentralisé. La grande révolution administrative en France, ce sont les lois de décentralisation de Fer 1982-1985. Ce qu'on pouvait faire dans les années 60, style créer des communautés urbaines de façon extrêmement autoritaire, les quatre métropoles d'équilibre à qui on a dit « maintenant vous serez des communautés urbaines », on ne leur avait pas vraiment demandé leur avis, on leur a imposé. Aujourd'hui, pour tout un tas de raisons, c'est devenu ce type d'urbanisme un peu autoritaire et d'aménagement un peu autoritaire est devenu complètement impossible. En grande partie parce que les collectivités territoriales et leurs élus ont des pouvoirs qu'ils n'avaient pas dans le système d'avant la décentralisation. Donc le jeu politique est totalement différent et c'est beaucoup plus compliqué de construire un modèle politique où de négociation, de pragmatique, où il faut convaincre les gens que d'imposer d'en haut la construction un peu forcée de nouvelles formes territoriales.
Voilà. Alors, tu appelais toi-même à la prudence. On voit avec les régions que l'autorité existe toujours. Donc, est-ce qu'il y a des questions des certains qui souhaitent... Certains auteurs sont là, par exemple. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Non? Bon, donc...
peut-être pour rebondir sur l'invention du Grand Paris, je vais quand même mentionner l'ouvrage qui est encore dirigé Denis Fourcault avec Florence Bourillon. Il y a « Agrandir Paris ». Il y a combien ? Il y a 4 ans. Enfin, c'était pour le 150e anniversaire de l'annexion de Paris, donc en 2010, j'imagine. L'année prochaine, en 2015, nous en serons au 150e anniversaire de l'agrandissement de Bordeaux en 1865. Peut-être que c'est l'occasion de faire un colloque ou une manifestation, quelque chose pour reparler de ça, qui pourrait résonner aussi avec... La métropole qui est en construction. Voilà.
Alors c'est vrai qu'on peut évoquer et mentionner le fait que tu l'as dit, l'ouvrage qui effectivement qui est épuisé, je dois dire, et qui nous a servi un peu de modèle, en tout cas de référence, est issu d'une commande, hein, ce qui n'est pas notre cas. Et il y a cette année, l'année dernière, l'année prochaine, je crois... une série de colloques qui sont également des commandes politiques. Donc on voit quand même de la part des acteurs politiques parisiens un souhait, la manifestation d'un intérêt pour comprendre cette histoire. Voilà. Et on peut marquer là aussi une différence avec ce qu'on connaît ici à Bordeaux, puisque... on n'a pas ce type de résonance, c'est-à-dire le fait de comprendre l'histoire, la constitution, la construction de cette agglomération n'est pas quelque chose, me semble-t-il, qui est encore perçu par les élus, et par les dirigeants, comme un élément essentiel pour eux. Voilà. Je crois que lorsqu'on en vient à la commande, ça signifie bien que, pour certains au moins, c'est compris et c'est perçu comme quelque chose de fondateur, c'est-à-dire qui est nécessaire à la progression de l'action politique. Ici, ce n'est pas le cas. Hein. Je le dis d'une manière tout à fait simple, mais c'est vrai que... C'est vrai que notre présent bordelais, notre contexte aujourd'hui, celui d'une, encore une fois, d'une agglomération qui connaît de fortes transformations, de grands chantiers. Vous êtes tous rendus sur certains sites, vous les connaissez, vous les avez observés. Et donc on a quand même le sentiment d'une histoire qui se répète parfois aussi par ignorance, ou par manque d'intérêt de se passer, pour quelles raisons, je ne sais pas, faut-il faire nouveauté, mais par exemple, si l'on évoque la métropole millionnaire, hein, eh bien, qui est un thème, vous le savez, qui était très débattu ces dernières années, Bordeaux métropole millionnaire, eh bien, nous avons pu mettre en évidence dans le livre que ce n'était pas quelque chose de nouveau. Je ne sais pas si tu veux en parler, Thierry. Donc, voilà. Donc, on voit des débats quand même. On voit la durée des débats. Vous voyez l'inscription dans le temps. C'est-à-dire, la ville, c'est de l'espace, c'est de la transformation de l'espace, mais c'est aussi une dimension temporelle et une transformation de cet espace dans le temps. Hein. Voilà. Marcel Roncaiolo, un géographe, disait la ville, c'est du temps consolidé. Hein,
voilà. De ce point de vue, j'ose pas dire du point de vue que tu évoques, c'est-à-dire on a complètement oublié ce qui s'est passé dans la première moitié du XXe siècle et on réinvente des choses qui existaient déjà. Le projet parisien est totalement emblématique. Vous avez peut-être suivi le fait que, après de très laborieux débats complexes, le Parlement a voté la loi modernisation de l'action publique et affirmation des territoires, ce qui est un titre, janvier 2014. Et dans la loi MAPTAM, il y a le modèle auquel devrait se conformer le futur Grand Paris Métropole, la métropole du Grand Paris. Et par parenthèse, ce sont des députés socialistes de province qui ont pris le dossier, qui l'ont fait aboutir quasiment par un coup de force en contournant complètement les acteurs parisiens. Enfin, ça, c'est un autre problème. Et dans la loi, dans la métropole du Grand Paris telle qu'elle se dessine dans la loi, qu'est-ce qu'on réinvente ? On réinvente une métropole, les limites, c'est Paris plus les départements dits de la petite couronne, c'est-à-dire le 93, 92, 94. C'est-à-dire qu'on réinvente exactement, à peu près, le département de la Seine, qui avait été créé en 1790 par la Constituante et qu'on avait supprimé en 1964 pour créer les nouveaux départements de la région parisienne. On réinvente à peu près le département de la Seine et le futur conseil métropolitain, qui doit comprendre, je crois, 214 conseillers, un par commune, enfin bon, ça sera une mouture, une nouvelle mouture du conseil général de la Seine qui, avec des élus de Paris et des élus de la banlieue, gérait quand même les grands problèmes d'aménagement, d'urbanisme et de logement social du département de la Seine. Le problème étant que une bonne partie des technocrates et des élus qui réfléchissent sur ces questions ne connaissent pas l'histoire, même l'histoire du XXe siècle. Et quand on leur dit « mais le département de la Seine, c'était à peu près ça », surprise, parce que avant la Deuxième Guerre mondiale, trou noir, amnésie. Donc, je pense que ces livres-là, celui d'Olivier ou celui que j'ai dirigé, c'est pour essayer d'empêcher cette amnésie qui fait que des pans entiers d'événements majeurs sont tombés dans l'oubli.
Oui, je rebondis sur cette amnésie et sur effectivement la nature de l'ouvrage. vous avez l'un et l'autre, l'un comme l'autre, vous êtes revenus sur le fait que c'était des anthologies. Et je vous remercie beaucoup de l'avoir fait. Moi, j'ai envie de dire qu'on a envie de considérer le lecteur, d'offrir au lecteur le présent de la ville. Mais le présent non seulement d'aujourd'hui, mais le présent des contemporains, c'est-à-dire comment est-ce que à Bordeaux on se pose la question en 1840, comment est-ce qu'on se pose la question en 1865, hein, voilà. Et donc on a par exemple sur cette thématique de l'annexion, on a essayé de ressortir quelques textes des opposants à l'annexion, et on voit dans quels termes certains résistent, s'opposent et disent mais on ne veut pas de cette annexion, ça va avoir tel et tel effet terrible. Donc en fait on est dans j'ai envie de dire le présent, c'est un présent des possibles, hein, il y a plusieurs, dans l'action on a plusieurs possibles qui se devant nous, et bien voilà, donc nos anthologies, nos travaux, ces anthologies, je pense, essayent aussi de proposer au lecteur de se mettre dans cette situation-là. Alors évidemment, de manière, de façon qui n'est pas complète, bien évidemment, qui est partielle, en lisant ces textes des années 1840 ou de l'entre-deux-guerres, par exemple, on n'a pas à l'esprit tout le contexte du moment. Mais pour autant, sur des enjeux, le logement social, est-ce qu'il faut du logement social, où le construit-on ? Sur les infrastructures, des ponts, est-ce que ça vaut le coup de faire des ponts ? Pourquoi pas des tunnels d'ailleurs, etc. Sur ces différentes questions, eh bien, les contemporains sont interrogatifs. Hein, ils sont interrogatifs. Et c'est la récurrence de ces interrogations aussi que nous évoquons et qui nous semble très intéressant, je pense, hein, digne d'enseignement. Voilà, je crois que c'est un point qui est important à souligner. Est-ce que, Sylvain, tu souhaites ajouter un mot ? Est-ce que le public qui... Oui !
Michel Bernot, ne faudrait-il pas évoquer les questions d'institution ? Parce que, à ma connaissance, un fonctionnaire de la ville de Paris, pour un certain nombre de domaines, n'a pas tout à fait le même statut qu'un fonctionnaire d'une commune, en particulier les conservateurs de musées, la DDE. C'est quand même une donnée fondamentale. C'est-à-dire que Paris est un État dans l'État avec ses structures, ses corps propres. On parle toujours des trois fonctions territoriales. Et je m'aperçois d'ailleurs que je ne sais même pas où il faut mettre celle de Paris, d'ailleurs. Est-ce qu'elle est dans celle d'État ou est-ce qu'elle est dans celle des collectivités ? Et ce qui est quand même un blocage fondamental qui n'existe pas ailleurs. Un fonctionnaire de Pessac ou un fonctionnaire de la ville de Bordeaux, à ma connaissance, arrêtez-moi si je dis des bêtises, mais a le même statut. Et ça, c'est quand même un problème. Donc, pour avoir vécu cette déstructuration des départements de la Seine et de la Seine-et-Oise, puisque je vivais là à ce moment-là, c'est quelque chose qui ne peut pas être comparé à ce qui se passe, me semble-t-il, dans les autres villes françaises. Et on l'a bien vu au niveau des élections encore, cette puissance de la ville de Paris. Pour donner un chiffre, moi qui m'a stupéfait quand on a, j'avais jamais réalisé, quand aux dernières élections municipales, quand Madame Hidalgo a été élue, c'est la ville de Paris, ça représente 50 000 fonctionnaires. Hein, c'est-à-dire que c'est presque la taille du CNRS.
Oui. Non, mais vous avez tout à fait raison d'évoquer cette spécificité, mais il y en a d'autres. Il y a eu d'autres spécificités. On n'a pas eu le temps de... Il n'est pas question de faire un tableau exhaustif en comparant Bordeaux et Paris sur tous les plans, mais Paris a toujours eu un statut administratif et politique à part. Je rappelle quand même que Paris n'a pas eu de maire avant la loi de 75 et l'élection de Chirac en 1977, pendant que Bordeaux avait des grands maires, Chaban et puis l'actuel maire, qui avait un rôle politique national. Le statut de Paris est complètement à part, pour des raisons historiques très anciennes, la commune, la peur des révolutions, etc. Donc Paris n'est même pas rentré dans le droit commun depuis 1977, et Paris était géré par la préfecture de la Seine et la préfecture de police. Donc c'est vrai que c'est un État dans l'État qui a un statut à part, qu'on se rend compte aujourd'hui que cette exception pèse très lourdement sur la résolution du problème de la gouvernance de la métropole. Parce que la métropolisation, alors à Bordeaux, je ne sais pas, je pense que oui, mais à Paris, elle est en cours. Les grands acteurs privés, les promoteurs, tout le monde s'installe dans un grand Paris sans tenir compte des différences, savoir s'ils sont... s'ils sont en Seine-Saint-Denis ou à Paris. Pour les acteurs économiques, urbains, etc., la métropole, c'est une réalité. La difficulté, c'est une difficulté de trouver un mode de gouvernance de cette métropole qui est rentré dans les faits et rentré dans les pratiques des habitants. Et on bute à Paris plus qu'ailleurs, parce que, bon, alors on parle de cas marseillais, mais à Lyon, c'est en train de se faire. Dans toutes les grandes villes françaises, c'est en train de se faire à partir des communautés urbaines. À Paris, on bloque. Pourquoi ? En grande partie à cause des spécificités politiques du système politique parisien. Je suis d'accord avec vous.
D'autres réactions ? Non ? Je crois qu'il va falloir qu'on cède la place.
Voilà, on va clore, mais je pense que cette dernière intervention est intéressante aussi parce qu'elle montre comment, en fait, la constitution, la construction des agglomérations, des grandes agglomérations françaises, eh bien, n'est pas du tout uniforme. Beaucoup de questions sont communes, hein, beaucoup de questions se retrouvent, mais elles ne se déroulent pas de la même manière. Et le cas parisien est peut-être extrême, et sans doute extrême, et très particulier en France, mais notre travail, notre idée, c'est de mettre à jour aussi, de connaître cette histoire de Bordeaux. Et à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de travail équivalent pour le moment, en tout cas sur d'autres grandes agglomérations. Et je pense que dans le détail, l'écriture de détail de cette histoire permet des éléments de comparaison. Et ce qui en ressort, en tout cas pour le moment, avec cette connaissance fragmentaire, c'est quand même la variété et les différences entre ces grandes agglomérations françaises. Voilà. Je crois qu'on... On doit s'arrêter. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.
Voilà, merci. J'en profite pour vous dire que le livre est en vente au stand de la librairie Mola au premier étage. Et je vais récupérer d'ailleurs l'exemplaire que la librairie Mola m'a prêté. Merci.